Bonjour, c'est Philippe Wakeman de Social Selling CRM. Aujourd'hui, je m'entretiens avec David sur la technologie et le télétravail.
Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau live informel, ce nouveau café virtuel. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Philippe Wakeman. Comment vas-tu, Philippe ?
Très bien, David. Merci pour ton invitation.
Bah, grand plaisir, merci d'avoir accepté. C'est la deuxième fois qu'on fait un live ensemble, c'est vraiment très très chouette. Et aujourd'hui, en plus, on va parler d'une thématique qui est extrêmement d'actualité, si on peut dire ça comme ça, vu ce qui se passe actuellement. On va pas trop parler aujourd'hui de ce virus et de ce confinement, mais c'est vrai qu'il faut poser le contexte parce qu'aujourd'hui on va parler de télétravail et de voir comment la technologie peut aider à améliorer ce télétravail. Donc je vais lancer le générique, mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, Philippe, aux personnes qui te découvrent dans ce live?
Ben bonjour à tous. Ben écoutez, pour ceux qui me découvrent là pour la première fois, je vois que j'ai un certain âge déjà. La première chose est que bon, ben j'ai quand même pas mal roulé ma bosse dans le digital depuis 1990 déjà, où je travaillais chez Apple. Donc depuis, j'ai développé plusieurs entreprises et voilà. Donc les dernières, c'est autour du social selling et du CRM. On en parlera un petit peu après, David.
Yes, avec grand plaisir. Eh bien, écoute, je lance le générique et puis bon, on se retrouve pour parler de cette belle thématique. À tout de suite. Donc, bienvenue dans ce nouveau café virtuel. Aujourd'hui, on parle de télétravail et de technologie. Merci Philippe, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'est le social selling? Tu en parlais là tout de suite. Avant de rentrer dans le sujet du jour qui est le télétravail et la technologie, peut-être nous expliquer justement en quoi consiste le social selling, puisque c'est quand même une grosse partie de ton travail aujourd'hui.
Ben très bien. Ben le social selling, pour faire une définition assez simple, c'est de se servir des nouveaux outils numériques que l'on a aujourd'hui à notre disposition, notamment Internet, hein, bien sûr, et à travers LinkedIn, qui est le réseau, on va dire, le plus efficient pour faire du social selling. C'est l'art, en fait, de vendre sans vendre, en fait. C'est-à-dire que on va, plutôt que d'aller mettre ce qu'on faisait avant, ce que les commerciaux faisaient avant, c'est-à-dire mettre le pied dans la porte, on va plutôt, à travers notre savoir-faire, notre expertise, essayer de plaire, tout cela avec bienveillance, un mot qu'on adore, hein, David, essayer de plaire à notre communauté, ou du moins à celle qu'on essaye d'acquérir. Et cette communauté qui deviennent par après des clients ou on va dire des collaborateurs, ça peut être, bon, on peut faire du social selling pour plusieurs choses, hein. On peut faire du social selling pour du recrutement, mais ce n'est pas nécessairement pour vendre quelque chose, hein. On peut faire aussi du social selling pour trouver des ressources. Donc, on va essayer de plaire à cette personne de façon, en leur apportant de la matière, c'est-à-dire en leur apportant par exemple des articles, des commentaires, des posts que l'on va publier, notamment sur le fameux réseau LinkedIn. Et de fil en aiguille, ces personnes vont venir vers nous de façon naturelle, en nous posant des questions, en s'intéressant à nous. Et en fait, c'est eux qui vont être demandeurs à la fin de ce parcours. Voilà.
Tout à fait. On va attirer les bonnes personnes à nous. C'est exactement ce que je fais au travers d'un nouveau projet pour celles et ceux qui me suivent, qui s'appelle Publier pour Impacter, où moi j'utilise par exemple le livre papier comme un outil d'apport de valeur aux personnes. Et par essence, on attire les bonnes personnes puisqu'on va choisir un titre, un sous-titre qui va attirer les clients que l'on a envie d'attirer. Et donc, c'est c'est la même chose, entre guillemets, que du contenu en ligne, sauf que c'est transposé sous forme d'un livre papier pour diverses raisons. Là, je vous mettrai un lien dans la description vers les 4 bonnes raisons que moi, je considère de publier son livre papier. Arrêtons de parler de moi. Parlons plutôt aujourd'hui de justement cette fameuse thématique, puisque on parle de social selling, c'est-à-dire tisser des relations en partageant la valeur et après ben, les choses se font toutes seules. En fait, on vend sans vendre. Concrètement, est-ce qu'on peut faire un lien? Moi, je vois le lien, mais est-ce qu'on peut faire un lien avec justement la partie télétravail, puisque ben, il y a une partie aujourd'hui des personnes qui sont par exemple les commerciaux qui ne peuvent plus démarcher leurs clients en présentiel. Est-ce qu'on pourrait dire que le social selling, pour essayer de faire une transition, est une alternative pour ces commerciaux de pouvoir télétravailler et de faire leur travail à distance?
Ben David, c'est exactement ça. Aujourd'hui et depuis longtemps, bien avant que cette pandémie arrive, le social selling s'exerçait notamment à travers le télétravail, car bien entendu, vu qu'il n'y a pas besoin de présence physique, tout se passe à travers les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, les commerciaux n'ont plus besoin, je veux dire, de prendre leur voiture pour aller trouver leurs clients. Ils les trouvent beaucoup plus simplement sur Internet et de nouveau à travers ce fameux réseau LinkedIn qui nous permet de faire des recherches à tout point de vue, c'est-à-dire autant on peut rechercher quelqu'un des RH que quelqu'un qui est un CEO ou un autre commercial dans une boîte ou un décideur tout simplement d'achat éventuellement. Oui, je t'écoute.
Je disais justement, on n'a pas attendu la pandémie, en tout cas certaines personnes n'ont pas attendu la pandémie pour faire du télétravail effectivement, et ou même on pourrait dire de travailler à distance, puisque on peut travailler depuis un espace de coworking, on peut faire ses rendez-vous aussi depuis la plage, bien que moi j'ai jamais essayé, et puis avec le reflet du soleil dans l'écran, je suis pas sûr que ce soit super pertinent, mais voilà, bon, après pourquoi pas.
Mais formation, voilà, il y a aussi une question de concentration, parce que se concentrer au bord de la mer, j'ai des amis qui le font, qui travaillent depuis la Thaïlande, etc., et je les trouve très très courageux. Mais bon, ouais, je vais dire, c'est souvent après une bonne baignade, voilà, dans les mers chaudes, voilà, de Thaïlande ou de d'Indonésie, qu'ils commencent à travailler, donc ils ont de la motivation.
Yes, c'est vrai que c'est bon. Voilà, le cadre aujourd'hui digital nomade, c'est possible. Alors voilà, la situation fait que effectivement, c'est pas évident. On peut pas se sortir comme on veut. On peut pas être libre comme on le désirerait. Mais pour le bien commun, voilà, il y a des choses qui sont mises en place. Donc là, on parlait principalement des commerciaux. On parlait aussi un peu du recrutement qui peut se faire par le biais de la technologie. Comme le thème aujourd'hui, c'est technologie et télétravail, quelles sont les choses que tu avais envie de nous partager aujourd'hui sur justement cet outil qui est la technologie au service du télétravail? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager aujourd'hui à ce sujet-là?
Beaucoup de choses, mais bon, des choses qu'aujourd'hui tout le monde par la force des choses, tout le monde a adopté, c'est que là, ces derniers mois, enfin cette année de 2020 a vu un essor considérable dans tout ce qui est transformation digitale des entreprises et de nous aussi, de nous êtres humains, dans la mesure où tout le monde a dû par la force, pour certains, s'y mettre au digital, c'est-à-dire notamment à ce qu'on appelle la visioconférence, celle qu'on est en train de faire pour le moment, mais qui peut être Zoom, qui peut être Meet, qui peut être Skype, qui peut être Teams. Aujourd'hui, bon, je prends le cas de ma fille, elle fait donc tous ses cours à travers Teams. Je suppose que bon, tous les enfants, eux, par contre, sont beaucoup plus adapté à ces nouvelles technologies que le sont certaines personnes entre, même à 35, 40, 45, 50 ans, qui s'y mettent un petit peu, eux, par la force des choses. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, les outils ont fait un bond considérable dans ce que j'aime beaucoup, la convivialité du fonctionnement de ces outils. Et là, on vient de se brancher, notamment là avec toi, David, là, d'un seul clic, voilà, hop, on rentre en relation tous les deux et ce stream, comme on l'appelle, hein, est diffusé dans le monde entier. J'espère qu'on nous écoute. À plusieurs réseaux sociaux. Donc, voilà, tout ça, on va pas dire que c'est simple, mais c'est accessible aujourd'hui. Et c'est accessible à tous. Voilà. Ce que je veux dire surtout, ça, si je peux apporter un premier témoignage, c'est qu'il ne faut absolument pas avoir peur des outils numériques. Trop de gens craignent de s'y mettre simplement de peur, ne fût-ce que de cliquer au mauvais endroit. Voilà. Et ça, franchement, n'ayez pas peur, c'est jamais grave. C'est jamais grave, voilà.
En plus, généralement, les outils ont un support, etc. C'est dans leur intérêt d'aider les gens à utiliser les outils. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous offrir une formation aujourd'hui ou quelqu'un qui peut vous accompagner, ben, à partir du moment où vous investissez dans un outil, logiquement, vous avez un support, vous avez droit à un support et demandez de l'aide, posez des questions. Il n'y a pas de bêtes questions, justement, ça vous permet d'avancer et effectivement, on fait un clic. Ça n'a jamais tué personne, en tout cas, je pense.
Très jolie cette phrase. Ça n'a jamais tué personne, bien au contraire. Et c'est vrai que le support aujourd'hui est assez réactif sur Internet. Hein. Il faut savoir que derrière toutes ces interfaces effectivement virtuelles, il y a des êtres humains. Et il ne faut pas oublier que malgré tout, ce virtuel est humain. Il y a des êtres humains. Il n'y a pas que de l'intelligence artificielle, il n'y a pas que de la technologie. Il y a aussi des êtres humains qui répondent des fois très rapidement à vos problématiques. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est ce premier témoignage, c'est avancer, n'ayez pas peur, allez-y, faites du télétravail. Pour revenir au télétravail, avant de parler de certains outils, hein, comme tu m'as posé la question, j'ai un petit peu réfléchi là sur la thématique de ce jour, là quand tu me l'as proposé, enfin quand on se l'est proposé, et je me suis aperçu que en fait, en ce qui me concerne, je télétravaille depuis très longtemps. En fait, parce que bon, c'est peut-être ou un petit peu en avance sur mon temps ou pas, je sais pas, mais il n'y avait pas encore la semaine des 4 heures et tout ça quand j'ai commencé à télétravailler. Voilà, c'est un des livres qu'on a lu, hein, David. Ouais,
excellent livre d'ailleurs. Tim Ferriss.
Voilà. Et donc avant que cette semaine de 4 heures arrive et en fait. Bon, je vais pas dire que c'était un des précurseurs du télétravail, hein, Tim Ferriss, parce que ça existait peut-être avant lui, mais je n'ai jamais. Alors ça, c'est personnellement, hein, là, David, tu réagiras là-dessus. Mais moi, je ne suis pas un adepte de vraiment du travail en entreprise, etc. Je sais qu'il faut socialement et pour des questions de réunions, d'organisation, etc. qu'on se rencontre physiquement, ce qui est un petit peu difficile actuellement, c'est nécessaire. L'être humain a besoin d'humanité et de se voir, de manger ensemble et de parler, etc. Voilà, physiquement. Malgré tout, j'ai toujours préféré le télétravail et travailler à la maison ou dans mon bureau qui attenait à ma maison plutôt que d'aller dans l'entreprise. Depuis les années 90, hein, 95 où j'ai commencé mes premières entreprises, j'ai privilégié en fait le travail au bureau. Je me levais très tôt le matin. Je vous expliquerai un petit peu mon miracle morning, hein, un petit peu là, si tu me permets, hein, David.
Oui, bien sûr.
J'ai même me levé tôt en fait pour au moins passer 4 heures avec moi et mes projets, mon travail. C'est-à-dire que je voulais pas qu'il y ait de personnes ou d'événements qui me perturbent.
D'interférences, quoi, c'est voilà. Ça.
On a beaucoup trop d'éléments perturbateurs dans l'entreprise. C'est beaucoup plus difficile de se concentrer. Et
même dans la vie privée, d'ailleurs, parce que quand tu regardes, il y a une étude qui avait je sais plus avec quelle étude, mais en tout cas, j'avais lu une étude qui démontrait que la première chose que faisait une majorité des gens aujourd'hui, et c'était déjà il y a quelques années, c'était ouvrir leur smartphone et regarder les notifications des réseaux sociaux.
Exactement.
Donc c'est dingue de dire, mais du coup, tu commences ta journée et si ça tombe, tu vas déjà te faire polluer ce que tu avais entre guillemets en tête. Tu te le fais déjà polluer par des notifications qui sont extérieures à ce que toi, tu as prévu de faire. Et donc, effectivement, la routine, j'ai hâte de voir comment tu fais, parce que c'est extrêmement important, je trouve. Pardon, ouais. Je t'ai coupé du coup.
Non, on a tous notre routine, hein, j'y reviendrai. Et donc, je vous dis, bon, depuis de nombreuses années, je télétravaille sans vraiment m'en apercevoir, hein, dans la mesure où je passe beaucoup de temps. En fait, le télétravail, c'est passer du temps, pas que seul, hein, c'est aussi faire des visios, contacter des gens, etc. Mais passer du temps seul aujourd'hui, c'est la difficulté à pas mal de télétravailleurs qui, effectivement, il y a une cassure sociale, hein, qui est assez difficile à gérer. Et c'est vrai que quand on a l'habitude de télétravailler, on le ressent pas. Mais les gens qui sont passés aujourd'hui du monde du salarié, de l'entreprise, de tous ces plateaux où maintenant il y a eu beaucoup d'évolutions, hein, dans l'entreprise. Hein, on est sur des plateformes, on n'est plus cloisonné, etc. Je veux dire, c'est assez ouvert. Il y a beaucoup de relations, d'interactions, etc. Je trouve ça merveilleux. Néanmoins. Je pense que le télétravail, et c'est les statistiques et les retours d'expérience qui le prouvent, permet à l'individu de plus se concentrer et d'être plus efficace. Alors, qu'est-ce que c'est être plus efficace, hein? C'est notamment ne pas, ce que tu disais, hein, ne pas être distrait par quelconque interaction avec des personnes à côté de soi ou un bruit ou effectivement les fameuses notifications du téléphone, même ça, même en télétravail, hein, je vous donnerai quelques petits conseils là que tu as certainement donné déjà aussi, David, mais toutes ces interactions ne nous permettent pas de respecter cette fameuse méthode, hein, que tu connais, hein, la méthode Pomodoro là. Que quand tu travailles souvent, en fait, et c'est là où je voulais venir un petit peu sur les outils, hein, c'est qu'on va pas vraiment donner que des outils numériques. Je vous donnerai 2-3 plateformes que j'utilise, hein, en outils numériques purs et durs, hein, mais tout le monde les connaît. Mais c'est plutôt des bons tips que j'aimerais donner. C'est comment ne pas être distrait. Comment ne pas être distrait, en fait, quand on télétravaille beaucoup, hein, quand on a fait du coworking comme nous, David, et tout ça, on a des méthodes, et en fait des méthodes de concentration qui consistent, les premières, hein, c'est d'avoir ce chronomètre qui dit, eh ben voilà, pendant 25 minutes, hein, c'est la fameuse méthode Pomodoro, on va se concentrer à fond sur un seul dossier, mais un seul. Pas de notification, pas de bavardage inutile, etc., etc. Et je vous assure que des fois, en 25 minutes, là, je viens d'écrire carrément 4 pages en 25 minutes, donc ça peut débiter en 25 minutes. Hein. Tu es d'accord avec moi, David, je pense.
Oui,
que...
tout à fait. Je suis en plein défi NaNoWriMo, là, ce mois-ci. Ah ben voilà. Je dois écrire 50 000 mots en 30 jours, donc tous les jours, oui, il faut...
Oui, oui, ça, félicitations. Voilà. C'est un sacré défi. Donc, les... Pour revenir à ce que tu me disais des notifications, c'est ce que je conseille, c'est d'abord de mettre son téléphone en mode avion quand on est à fond sur un dossier, hein, de vraiment se couper de tout. Surtout, même si on a besoin du téléphone comme outil de travail, c'est d'enlever les notifications. Alors, je ne le dirai jamais assez, et je l'ai lu aussi et relu, et c'est des conseils de pros qui ont été donnés, mais trop souvent, et malgré tout, je vois encore de nombreux téléphones dans mon entourage avec des tas de bulles, avec des chiffres marqués en rouge, bien éclatants, qui a autant de messages qui les attendent, des bips toutes les 5 secondes, etc. Ça vous pollue, ça nous pollue. Ça pollue vous, votre entourage, tout le monde. Et d'abord vous, arrêtez les notifications. C'est bien un truc qui n'aurait jamais dû exister sur un smartphone, c'est ces notifications.
Ouais, c'est, je viens de terminer un bouquin il y a quelques mois de Nir Eyal qui partage en fait ça s'appelle Hooked, donc c'est croché en anglais, et en fait il explique comment est-ce que les applications peuvent rendre accro les gens. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les notifications jouent sur deux choses principales. Elles jouent sur le fait que l'on a peur de manquer quelque chose, et donc comme on a peur de manquer, on a envie d'être prévenu de quand ça sort pour pouvoir cliquer dessus et y accéder, ce qui nous amène dans une certaine boucle. Et c'est pour ça que parfois on se retrouve à passer une heure sur une application, alors qu'au départ c'était juste une notification qui nous y a amené. Et la deuxième chose, c'est jouer sur la récompense. Comme on va obtenir quelque chose qu'on attendait, on a de la récompense, on a de la dopamine qui est dispatchée par le cerveau, par le corps en tous les cas, et du coup ça nous donne une certaine récompense, un certain plaisir, et hop, la boucle elle est bouclée. Et effectivement, c'est il faut pouvoir s'en passer de ça, parce que sinon en fait on devient esclave sans s'en rendre compte. On devient asservi par ces applications, et parfois une bonne partie de la journée y sont consacrées. Enfin voilà le petit parallèle.
La fameuse dopamine, c'est ce que j'allais te dire, hein, qui est sécrétée, hein, et qui nous donne une grosse joie, ne fût-ce que pour un seul pouce, un petit cœur sur
un petit like,
pour notre post Facebook ou Instagram, etc. Et tout ça paraît. Avec le recul, et je vous assure, je suis dans les réseaux sociaux et j'en vis depuis, on va dire, pratiquement de 2007, 2008, je vis des réseaux sociaux, hein, donc je sais ce que c'est, j'y étais accro, etc. Et aujourd'hui, avec le recul, on comprend un petit peu l'absurdité de tout ça et comment on peut vraiment s'en passer et comment ça peut être aussi inutile. Donc voilà, les réseaux sociaux c'est bien, hein, je vous dirais qu'il y a plein de choses à faire avec les réseaux sociaux, mais n'en soyez pas esclaves, tu l'as dit, hein, David, il ne faut vraiment pas être esclave de ça. Alors là, il y a ce fameux reportage, hein, je ne sais pas si tu l'as vu sur Netflix, derrière nos écrans de fumée, qui définit en fait ce sont les personnes un peu qui ont créé Twitter, Pinterest.
Je ne sais pas.
Tu iras le voir ce reportage, qui témoigne justement sur cette drogue, hein, qui est les réseaux sociaux, et notamment à travers cette fameuse dopamine, etc. Et comment ils nous rendent accros. Trop accro d'ailleurs, hein, parce que c'est leur business. Hein. Leur business, c'est de nous connaître à 200%. C'est,
ouais, tout à fait.
Quelque part, il y a des réseaux sociaux qui vous connaissent mieux que ne vous connaît votre entourage. C'est quand même complètement fou, quoi. Donc là, ces personnes, et je ne m'arrêterai que sur une seule anecdote, parce qu'on fera une autre émission, si tu veux, là-dessus.
Avec plaisir.
La seule anecdote, c'est que ces gens qui travaillent dans la Silicon à des places importantes chez Facebook, chez Google, etc., vont vous dire une chose, c'est qu'ils ne laissent pas leurs enfants sur leur smartphone. Vous imaginez ? Des gens qui ont créé le like de Facebook, etc., qui vous disent ça, c'est complètement fou.
Ouais, ça prouve à quel point ils savent que ça peut être nocif, et je pense que ce qu'il faut faire, c'est redevenir maître. Tu vois, on parlait tout à l'heure de, entre guillemets, d'être esclave. Les outils, enfin, c'est un outil en fait, les réseaux sociaux. Il faut simplement l'utiliser en étant conscient et en restant maître de la situation. Alors c'est pas évident, parce qu'on tombe. Enfin moi, ça m'arrive parfois. Je vais sur YouTube. Effectivement, ils me connaissent tellement bien qu'ils vont proposer des vidéos que j'apprécie, d'artistes ou de personnes que je suis, chez qui je suis abonné. Donc forcément, je vais avoir envie de cliquer dessus. Mais on peut être vite parti sur une demi-heure, une heure de... Alors, je vais pas dire c'est perdu, c'est du divertissement, mais si tu as autre chose à faire, il y a quand même plus important que regarder une heure de YouTube. Et c'est la même chose pour Netflix et compagnie. Enfin, je suis toujours surpris quand je vais chez des amis qui ont Netflix de voir à quel point chaque profil est différent. Ils ont chacun leur propre film proposé, etc. D'ailleurs, je mettrai dans le lien, je sais pas si tu as vu, je sais pas si tu connais un créatif, il fait des vidéos YouTube, c'est très, très intéressant. Et il a analysé comment fonctionne, comment justement Netflix rend accro les gens. Et il expliquait que, par exemple, s'il remarque que tu as regardé, on va prendre un exemple, Pulp Fiction, s'ils savent que tu as regardé, par exemple, un film avant avec John Travolta, eh bien, la miniature, ce serait une miniature avec John Travolta. Par contre, si tu as regardé un autre film avec Uma Thurman juste avant ou un peu avant, il va te proposer la même miniature pour le même film, Pulp Fiction, mais pas avec John Travolta, il va te le proposer avec Uma Thurman, tu vois. Et donc, ouais. C'est vraiment, ça va jusque-là, quoi. C'est dingue de dire ça.
Bah, disons, le neuromarketing aujourd'hui est très, très poussé. Hein. On n'imagine pas tout ce dont ils sont capables, en fait, hein, au niveau marketing. J'exerce ce métier et je crée pas mal de publicité pour mes clients à travers des réseaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter. Quand on voit le jusqu'où on peut aller dans le ciblage en fait des individus, c'est là que ça fait peur, quoi. Ça fait peur parce qu'on peut vraiment rentrer dans la vie privée des gens, quoi. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier des réseaux sociaux et ne pas en être esclave. Pour revenir au télétravail, parce que pour pas s'éloigner trop de notre sujet.
C'est la passion, ça.
la passion, comme tu dis. Oui, en télétravail, justement, c'est bien ce mot passion, parce que qui dit télétravail dit passion pour moi. Parce que je pense que c'est difficile de télétravailler quand on n'est pas passionné par son travail. Je pense que la seule motivation que l'on peut avoir, mis à part l'argent, bien sûr, hein, une monnaie, de télétravailler, c'est la passion. Quand je passe une journée de télétravail, elles sont nombreuses, hein, parce que c'est pratiquement tous les jours, je démarre le plus souvent vers 8 heures et je finis ma journée de télétravail à 18 heures. On parlera des horaires par la suite aussi, hein, si tu me le rappelles, David.
Je le rappellerai.
La journée est entrecoupée, hein, je rassure tous, hein, je travaille pas 10 heures par jour non-stop. Je fais des coupures, hein, c'est l'autre chose qui est très importante en télétravail, hein, je vous dirai un petit peu mes tips pour faire ces coupures, parce que je suis tellement passionné que il m'est difficile de faire des coupures, j'avoue, voilà. La passion, en fait, est à ce point que quand j'ai fini ma journée, je suis obligé de m'arrêter un quart d'heure, 20 minutes avant, parce que j'ai une réaction qui est bizarre. C'est cette impression de ne pas en avoir fait assez et de ne pas avoir atteint tous mes objectifs de la journée. Alors, c'est toujours une situation un peu embarrassante et difficile à gérer. Et depuis peu, en fait, j'essaie de me poser un quart d'heure avant de m'arrêter complètement, hein, c'est-à-dire de couper les ordi, les réseaux sociaux, etc. J'expliquerai par après, afin de réfléchir à qu'est-ce que tu as fait pendant la journée. Et je vous assure, c'est magique. C'est magique parce que prenez une feuille de papier, hein. Moi, je crois que dans tes méthodes, tu dois en parler aussi, David. Mais prenez une feuille de papier et notez tout ce que vous avez fait. Et je vous assure, des fois, vous serez surpris. Moi, des fois, j'ai l'impression d'avoir fait qu'une seule chose ou deux choses dans la journée. Mais en fait, là, rien que ce matin, sur 4 heures de temps, je crois que j'ai dû tomber 5 choses essentielles. Nécessaire à mon activité. Si j'avais pas réfléchi, je me serais dit je suis pas content de moi, quoi.
Non, parce qu'on a tendance à voir ce qui nous reste à faire et pas voir ce qu'on a déjà fait et se poser effectivement pour voir le chemin parcouru, c'est important.
Et ça franchement, faire ce point-là, préparer sa journée et bien la finir, je vous assure, c'est une des recettes du télétravail. Voilà. Et ça, vous aurez envie de re-télétravailler le lendemain en faisant ça. Voilà. L'autre recette, on parle un petit peu du gros souci. Et une des recettes, je l'ai entendue encore, pas plus longtemps que hier, c'est on ne prend plus son véhicule pour aller au boulot. on se déplace puis on prend pas le train. Donc on est obligé de quand télétravail, c'est pas loin. Quelques pas suffisent et hop, on est devant l'ordinateur et hop, on est dans le bain. Donc je veux dire, il y a pas ce temps de latence où on allait boire son petit café à la machine à café avec les collègues ou dans sa voiture on écoutait la jolie musique ou le chouette podcast où on téléphonait je sais pas à ses enfants, à sa femme ou autrement pendant le trajet du boulot, etc., etc. Donc tout ce temps n'existe plus. Mais ce temps, il faut le créer, malgré tout. Il faut le créer avant, pendant et après. Il ne faut jamais, jamais passer du télétravail à la vie privée comme ça, en switchant. C'est très mauvais. Il faut toujours s'accorder un temps pour soi. Si tu l'oublies, ce temps, enfin, je pense que David, je ne te l'apprends pas, mais peut-être que des gens...
Moi, j'ai plein de choses à apprendre encore. Voilà. Je vais promener dans le village, j'ai de la chance d'habiter un village, mais c'est clair que... Mais ce sentiment dont que tu partageais là, avec le fait de pas avoir fait assez, enfin d'avoir ce sentiment de pas avoir fait assez, effectivement, je pense que quand la passion elle est là, on se dit pas ah vivement vendredi, en fait on se dit putain c'est déjà vendredi, tu vois.
C'est déjà vendredi.
Mais voilà.
Et le pire c'est que demain je vais travailler demain et je vais me dire zut, c'est pas un jour de travail. Ça c'est encore pire.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et ça m'est arrivé une fois que tu télétravailles très souvent, à un moment, tu ne t'aperçois plus, enfin, t'es plus dans le même espace-temps que tu n'es dans l'entreprise où on sait que il va y avoir, ça va être férié tel jour, ça va, parce que tes collègues et tout ça te le dire, te le rappellent, etc. Non, tu vas travailler et à un moment, tu vas t'apercevoir. Il faut en fait avoir une grande maîtrise de soi pour se dire, maintenant, j'arrête de travailler. Ça, c'est important. Et c'est, je l'avoue, ce qui m'est le plus difficile, c'est de m'arrêter de travailler. Et pourtant, il faut s'arrêter de travailler. C'est important parce que on ne peut pas télétravailler tout le temps. C'est pour ça que certainement, il peut y avoir des burn-out, des gens qui craquent, etc. C'est parce que, effectivement, le télétravail paraît confortable, mais il est aussi régi par des tas de règles qu'il faut respecter. Et si on ne respecte pas ces règles, on va au clash. Et on va détester le télétravail. Et
ouais, tout à fait.
Détester parce que c'est quand même vraiment, et je le crois, c'est une des solutions qui va être le plus... qui va encore évoluer dans l'avenir. Parce que pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tous prendre notre voiture. On peut pas tous être en même temps à 100 km d'ici, à 150 km d'ici. On va devoir travailler avec de plus en plus de gens justement qui sont à des endroits différents, etc. Il va falloir désengorger effectivement tous ces gros centres où tout le monde est, etc. Il y a ce problème de la pandémie. Et puis bon, on va estimer que effectivement, je pense que les entreprises vont commencer à comprendre que c'est plus utile de garder de temps en temps un salarié chez lui en télétravail 2-3 jours que de l'avoir 5 jours par semaine à la maison. Tout ça pour dire que les règles que... Alors moi, je vous parle d'expérience personnelle, hein, parce que comme le Miracle Morning, les règles, chacun se les met en place, se les crée. Il n'y a pas de bonnes règles, il n'y a pas de mauvaises règles. Voilà, il y a juste les règles que l'on met en place et que l'on respecte. J'aime beaucoup lire, hein, comme tu le sais, comme toi, David, et je m'inspire beaucoup, notamment de tes livres et d'autres livres, etc. Néanmoins, il ne faut pas prendre tout pour argent comptant. J'espère que je ne te fais pas...
Expérimenter, je suis tout à fait d'accord.
Il faut prendre ce qui nous touche le plus dans ton livre, mais aussi dans d'autres livres, etc. Et justement, et prendre ces choses-là et les mettre en place. Voilà, il faut pas prendre un livre, par exemple celui de David, et suivre tout à la lettre. C'est pas possible, personne ne fait ça. Je veux dire, même la semaine des 4 heures qui n'existe absolument pas, personne ne peut travailler 4 heures. C'est impossible.
C'est un titre accrocheur qui est bien vendeur d'ailleurs. Mais
voilà, Tim Ferriss est un bien brave garçon, etc. avec sa semaine des 4 heures, mais je pense que c'est aussi quelqu'un qui bosse beaucoup. et qui a bossé beaucoup. Maintenant, il a mis des méthodes et il a pas vendu du rêve. Il a réalisé le rêve de beaucoup de jeunes à travers ce bouquin-là, en disant, ben, on peut travailler différemment. C'est surtout ça qu'il faut dire.
Oui, c'est ça, c'est l'état d'esprit qui l'amène. Voilà.
C'est qu'on peut travailler différemment. J'en parlais hier avec un de mes fils, justement, sur cette semaine de 4 heures, parce qu'il me disait à un moment, oh, j'en ai marre, là, tous ces conseils qu'il donne, etc. Je lui dis, oui, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, il faut juste noter quelques passages qui t'intéressent et prendre ce qui t'est nécessaire. Quoi. Donc, ma journée... en dehors du Miracle Morning, se passe en environ 10 heures, grosso modo, hein, c'est bien ça, hein, de 8 heures jusqu'à 18 heures.
Oui, tout à fait.
Une chose est sûre, premièrement, c'est que avant 8 heures et après 18 heures, c'est terminé, plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus de réseaux sociaux, plus de digital. Voilà, première règle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est trop facile. On peut dépasser le temps, répondre à un client, d'une notification, d'un mail, etc. À un moment, il faut vraiment, vraiment, vraiment couper. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est de savoir, et ça, bon, Pomodo le fait, hein, mais il faudrait le mettre un chronomètre, et vu que je ne le fais plus, vu que je travaille maintenant naturellement sur des phases qui peuvent évoluer entre une demi-heure et une heure, de focus sur un travail, je n'utilise plus de chronomètre. Par contre, maintenant, j'arrive même plus, moi, à me modérer. Donc, il faut absolument que quelque chose me pousse à me lever et à sortir de cet écran. Parce que cet écran, en fait, hypnotise, hein, quand on est passionné. Et il faut arriver à se sortir de là, et c'est le plus dur. Moi, j'avoue que c'est là où j'ai le plus dur. Donc, deux solutions. Là, pour le moment, j'ai la chance d'avoir ma fille qui est à la maison parce qu'il n'y a pas école. Et elle, effectivement, c'est très simple, hein, c'est qu'il faut s'en occuper. Donc, toutes les heures, etc., je suis obligé de lui donner un nouveau travail, un nouveau défi, etc., etc. Donc là, c'est simple. Quand on a quelqu'un d'autre à la maison, c'est simple. Mais très souvent, on se retrouve seul, David, à la maison. Et qu'est-ce qui va nous faire lever ? Eh ben, moi, je voulais vous dire, mon truc, c'est le thé. Je bois des quantités astronomiques de thé, surtout le matin. Et bon, voilà, naturellement, le thé vous pousse
à aller aux toilettes. C'est très diurétique, je confirme.
Et donc, c'est excellent. Et puis, surtout, bien respecter l'heure du repas. Et dernier truc que j'affectionne aussi, c'est ma petite sortie, et tu l'as dit tout à l'heure, David, c'est qu'à un moment, là, tu vois, le temps passe, 2 heures, 2 heures et demie, ça va être le moment où je vais tout couper et je vais aller me promener. Alors, se promener, c'est faire du vélo, courir, marcher le plus souvent. Bon, effectivement, quand on habite dans des endroits qui sont agréables, mais tout le monde a un parc à côté de chez soi, tout le monde, même en ville, on trouve toujours des balades à faire. Hein. Mais sortez, prenez l'air. Quand on télétravaille, il est indispensable de prendre l'air. Sinon, l'après-midi est compliqué. Compliqué. Prendre l'air, c'est digérer. Prendre l'air, c'est pas ne pas travailler. Mes plus grandes idées, je les ai trouvées en marchant. Saviez-vous que Un des grands trucs de Steve Jobs, notamment, hein, que j'aime beaucoup, qui nous a quittés, hein, malheureusement, c'était d'aller marcher avec les personnes avec qui il faisait des affaires. J'ai oublié le terme de ça, mais c'est faire une réunion en marchant, c'est hyper productif. Et c'est hyper sain. C'est hyper sain. Parce que vous sortez de ce contexte où on est tous dans une salle de réunion avec cette atmosphère très anxiogène, etc. C'est qui va parler, etc. Où tout le monde veut avoir la parole ou ne pas parler, etc., etc. Où on a l'impression de perdre son temps ou pas. Quand on marche à 2 ou à 3, on perd jamais son temps. Parce qu'au pire, on a marché. Voilà.
Ouais, tout à fait. Et la notion aussi de prendre du recul, de changer de cadre, changer de contexte.
Et respirer, il n'y a rien à faire.
L'oxygène aère le cerveau aussi.
Aère le cerveau et vous permet de vous décrocher de l'écran pour réfléchir à des idées, parce qu'en fait, c'est difficile de réfléchir devant l'écran des fois. C'est difficile. Il faut vraiment se sortir de là. Enfin, ça, c'est personnel et donc ça n'implique que moi, mais je pense que d'une certaine façon, d'après l'avis d'autres personnes, d'autres mentors, hein, comme on les appelle, c'est un petit peu aussi ces méthodes-là qu'ils appliquent.
Oui, tout à fait. De toute façon, comme on disait, au niveau des livres, etc., il faut tester. Prenez une ou deux choses ou trois choses de ce live et appliquez-le dans votre vie.
Quand on fait un live comme ça, David, hein, c'est qu'on se dit toujours, mais mince, quoi, si, allez, 5 ou 10 secondes ou 15 secondes de ce qu'on a dit, une personne dans le monde peut effectivement prendre ce petit tips et se dire, ah tiens, c'est chouette ce qu'il a dit là, je vais essayer, tu vois. Déjà, c'est notre grande satisfaction à toi et à moi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Mais justement, donc, si au niveau de ce premier point qu'on a quand même bien survolé, hein, donc on a parlé de bien préparer sa journée, faire le bilan en fin de journée, le fait d'être passionné, se déconnecter aussi, c'est important pour justement être focalisé et aussi pouvoir s'aérer l'esprit. On pourrait résumer ça en fait sur un premier grand conseil qui est de poser un cadre quand on télétravaille. En fin de compte, quel serait le deuxième grand point qu'on pourrait aborder ou que tu aurais envie d'aborder aujourd'hui?
Par rapport aux outils, c'est bon, là c'est peut-être plus ma partie, hein, en tant que voilà un peu expert dans tous ces outils et des outils, j'en ai utilisé des centaines, hein, et abandonné des centaines aussi. C'est alors, n'ouvrez pas 50 outils sur votre ordinateur. Arrêtez de faire ça, parce que on ne peut pas utiliser 50 outils. C'est pas possible. Du moins, les utiliser de façon optimum. Utilisez quelques outils, mais utilisez-les à fond et bien. Des outils que vous ouvrez sur votre ordinateur et qui vont être utilisé, on va dire, 5 minutes ou 10 minutes par jour, c'est pour moi pas vraiment des outils utiles. C'est pas des outils qu'il faut laisser ouverts. Habituellement, quand je travaille, j'ai effectivement Chrome qui est ouvert et je n'ouvre mes emails. Ça, c'est Tim Ferriss, hein, qui le dit, hein, dans son livre, c'est que arrêtez de consulter vos emails. Arrêtez. Il y a aujourd'hui des moyens, si vous avez vraiment besoin d'être en relation avec vos équipes, etc., il y a d'autres moyens que l'email pour être en relation avec vos équipes. Donc, un des conseils que je voudrais donner, là, on peut pas rentrer dans les détails parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse une formation là-dessus, mais je peux vous donner des pistes, c'est d'essayer de relever vos emails, parce que heureusement et malheureusement, l'email reste un support de communication très, très utilisé. Hein. J'ai envoyé la fin il y a 3-4 ans, mais apparemment, ça continue. Donc, consultez vos emails, mais ne commencez pas à travailler à travers vos emails, parce que c'est abominable. Ces emails qui n'en finissent plus, où vous adressez un mail à 10 ou 15 personnes, que ces 10 ou 15 personnes vont répondre à ce même mail, que d'autres personnes vont re-répondre, etc., l'email n'est pas l'outil pour ça. L'email, c'est pour envoyer un email et au pire y répondre. Mais c'est pas pour entretenir une conversation. C'est là où je voulais en venir, effectivement, David. L'email n'est pas fait pour entretenir une conversation. Pour entretenir une conversation, utilisez WhatsApp, utilisez même Messenger. Et dans le meilleur des cas, il y a un outil qui est extraordinairement bien fait pour le genre de pour le travail collaboratif, pour moi, et qui est utilisé par des chefs de projet, des développeurs, etc., c'est Slack, S-L-A-C-K. Et vous verrez que là, on a des outils qui font tout en un, qui font à la fois la visio, qui intègrent du Google Drive dedans, qui intègrent plusieurs canaux de communication, etc. qui permet d'optimiser le travail, quoi. Vraiment d'optimiser. Mmh. J'ai mes quelques très bons clients qui doivent rester en relation avec moi, on va dire pratiquement en permanence, ont ce canal privilégié, ou ces canaux privilégiés, si vous voulez, qui sont Slack. C'est-à-dire que je leur donne la possibilité de me déranger presque quand ils veulent, parce que j'arrive quand même à couper, comme je vous disais, dans des moments où il faut que je me concentre. Mais via Slack, si vous voulez, je ne suis pas obligé de relever mes emails. Et on retombe, tu sais, dans la notification, David.
Oui, tout à fait.
On relève un email, qu'est-ce qui va se passer?
Ben, c'est les urgences des autres qui arrivent dans notre boîte, en fait. C'est ça, la majorité du temps, c'est ce qui arrive, oui, tout à fait.
Et donc, là, on va perdre son temps et on va passer de son dossier sur lequel on est en train de travailler à un autre dossier, et encore un autre dossier, etc. Et le premier dossier sur qu'on voulait terminer pour telle date ou tel jour ou telle heure, eh ben, on va prendre du retard.
Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, en plus, une chose qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on peut, entre guillemets, alors j'utilise le mot éduquer, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, on peut. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'explique à mes clients, voilà, vous avez besoin de me contacter, le canal privilégié, c'est WhatsApp. S'il y a une urgence, vous pouvez m'envoyer un SMS en me disant c'est urgent. S'il y a des fichiers ou des choses bien concrètes à envoyer, vous pouvez le faire par email, mais alors prévenez-moi si c'est urgent par SMS que vous m'avez envoyé un email, parce que moi je relève mes emails une fois par jour, sauf si j'ai pas eu la possibilité de. Donc moi ça m'arrive parfois de pas lire mes emails pendant 3 jours. Messenger, j'y vais quasi jamais. Et donc voilà, moi c'est LinkedIn, WhatsApp, email et alors SMS pour les urgences.
C'est ça.
Et en fait, j'explique à mes clients comment est-ce que je fonctionne et ils prennent l'habitude de le faire. Donc, c'est aussi une. Je pense que c'est un moyen aussi d'être respectueux envers soi-même et envers aussi les clients, parce qu'un client qui t'envoie un email et qui n'a pas de réponse pendant 3 jours, il ne va pas trouver ça normal. Sauf si de base, tu lui expliques que tu relèves tes emails que tous les jours ou tous les 3 jours. Là, il est au courant et il sait que c'est à toi.
Une des méthodes serait de mettre un répondeur systématique à vos emails qui disent que bon, vous avez bien pris en compte son email, mais que vous répondrez, voilà, dans un laps de temps qui peut être de 1 à 3 jours, hein, suivant comment vous voulez répondre à vos emails. Mais moi, je ne réponds pas à mes emails immédiatement, comme toi.
Et je pense qu'il faut simplement être. Il faut que vous testiez ce qui vous correspond, tester Slack, tester WhatsApp, tester et poser votre cadre à vous. Et les autres, de toute façon, les personnes qui ont vraiment besoin de travailler avec vous s'adapteront. Ici, je viens de rejoindre une association pour laquelle je contribue et qui s'appelle We Act for Earth. Donc, je mettrai le lien dans la description aussi, qui travaille sur la responsabilité sociétale des entreprises. Et eux, ils utilisent Slack. Du coup, j'ai installé Slack parce que tous leurs processus sont faits sur Slack. Tout le monde est sur Slack. Donc, forcément, je m'adapte dans cette situation-là. Et je considère que quand c'est des clients qui ont envie de travailler avec moi, ils peuvent s'adapter à ma manière de fonctionner. Et faites-vous votre propre avis là-dessus. C'est pas une question d'imposer, c'est une question aussi d'être efficace. Parce que, comme tu le dis, ton client a besoin de te poser une question. Sur Slack, il sait qu'il va avoir une réponse. C'est que ça. Par email, il risque d'à un moment donné attendre peut-être pendant longtemps.
Et il risque d'être noyé par d'autres personnes qui ont une réponse de ma part, etc. Donc Slack est un bel outil, hein. C'est pas le seul, hein, mais c'est un des connus, hein, que j'affectionne, hein, depuis quelques années. Et voilà, donc donner un canal privilégié à vos clients. Et je retiens de ce que tu m'as dit, c'est sans rentrer par l'éducation des clients et des personnes avec qui on travaille, c'est de ne pas imposer sa façon de travailler, mais de mettre en place une façon de travailler.
C'est ça, exactement. Et d'être au clair avec ça, surtout. C'est voilà. On revient à poser un cadre, en fin de compte. Voilà, par exemple, pour le NaNoWriMo, ça se passe sur Discord. Donc, tu vois, mais c'est une volonté pour moi d'aller là-dessus. Je vais sur Discord parce que j'ai envie de participer au NaNoWriMo. Et le NaNoWriMo a centralisé leurs échanges, sur Discord. Personne m'oblige à aller sur Discord, mais du coup, je me prive de cette possibilité d'échanger avec les autres personnes.
Là, ce qu'il faut faire, c'est, je parlais tout à l'heure de multiplication des outils, c'est que malgré tout, si tu choisis Discord ou Slack, il faut impérativement que tu abandonnes d'autres outils comme Messenger par exemple ou la messagerie d'Instagram pour prendre un
autre. Oui, exactement, mais ça c'est là où je suis le moins réactif perso.
Voilà, mais tu ne peux absolument pas être partout en même temps.
Non, c'est compliqué. Truc que j'ai remarqué qui moi m'aide beaucoup, c'est la notion aussi d'avoir je sais que quand par exemple je dois m'occuper de l'association, c'est sur Slack. Je sais que quand je dois aller sur NaNoWriMo, c'est sur Discord. Donc moi j'ai entre guillemets cette chance pour l'instant de ne pas avoir non plus 50 000 projets. Enfin c'est un choix aussi, hein, donc c'est plus que de la chance, c'est plus j'ai créé cette chance, on va dire ça comme ça. Mais du coup j'ai en fait un projet, un outil. Donc ça m'aide beaucoup entre guillemets. Mais j'imagine pas quelqu'un effectivement qui a 10 projets sur Slack, 10 projets différents, il vaut mieux que tout soit sur un outil parce que sinon c'est pas possible d'avoir en tout cas moi ça m'aide beaucoup d'avoir cette notion un outil, un projet. Ça c'est vraiment pour moi c'est libérateur.
Comme c'est important ce que tu dis parce que je pense qu'on doit travailler un petit peu de la même façon. Je n'aime pas j'ai travaillé en agence pendant longtemps. J'ai même créé une agence, etc., où on avait effectivement beaucoup de clients, entre 30 et 40 clients, gros clients en permanence, où il fallait tout le temps jongler entre ces clients, ces canaux, etc., de communication et autres. Et c'est vrai que le grand luxe d'être retourné comme consultant, c'est que effectivement on choisit ses clients et on a moins de clients. C'est plus on se concentre mieux sur ses clients et surtout on a moins de sources de communication, si tu veux. Et effectivement, comme toi, je privilégie des sources de communication par client. Alors j'essaye de tous les amener sur Slack, mais tu ne peux pas amener tout le monde sur Slack.
Non, bien sûr. Bien sûr.
Voilà. Et excusez-moi, je suis distrait parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de buter pas loin de chez moi et ça fait un bruit dans l'oreille et ça me perturbe.
T'inquiète, tout va bien. Ça ne se voyait presque pas. En tout cas, ça ne s'entend pas. Mais oui, c'est...
Et tu vois, par exemple, les trucs de distraction comme ça, moi, c'est quelque chose qui me perturbe très fort. Et notamment, un des outils aussi du télétravailleur, c'est de s'isoler au niveau sonore, quoi. C'est important. Il y a soit les boules caisses qui marchent très bien. Moi, j'avoue que des fois, je mets les boules caisses, ça marche bien. Ou alors, c'est le casque, le bon casque. Parce que si vous faites du télétravail, offrez-vous un bon casque. Ça, c'est vraiment, c'est bien un outil qui vaut s'offrir et y mettre le prix. C'est un bon casque et notamment, tu sais, c'est ces fameux casques qui te permettent de t'isoler complètement du bruit ambiant, tu vois. Et notamment quand tu as du bruit là, comme j'en ai pour le moment, j'aime bien que ce bruit soit filtré au profit du silence, quoi.
Ouais, donc, tout à fait.
Ou de la musique. Il y en a qui aiment travailler en musique. À propos de la musique, une étude que j'ai lue dit que effectivement, écouter la radio, c'est bien. Mais en fait, dans la concentration, la radio, en fait, perturbe. En fait, tout ce qui est parler, chanter, etc., avec des paroles que sont en anglais, français, etc., perturbe. En fait, la seule musique qui te permet de te concentrer, en fait, et que tu pourrais normalement écouter, c'est de la musique classique, en fait. C'est celle qui ne te perturbe pas vraiment l'esprit. Celle qui, la musique, si tu écoutes, enfin moi je suis un fan maintenant de Typique, ex-Pure FM, est très distrayante en fait. C'est que tu n'es pas focus à 100% quand tu écoutes Typique par exemple.
Oui, voilà. Tout à fait. Même la télé en fond, enfin moi voilà. Je peux pas faire ça. En plus, j'ai un profil hypersensible, donc le moindre bruit, etc. Ouais. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut en fait éviter les distractions où on croit qu'on peut être multitâche, mais en fait, et là je vous invite à lire justement le livre The One Thing, Aller à l'essentiel. Je ne l'ai pas ici, mais bon voilà, vous pourrez taper, je mettrai le lien dans la description, où il explique qu'en fait on a l'impression qu'on est multitâche, ou en tout cas l'humain a l'impression qu'il peut être multitâche, sauf qu'en fait il passe très rapidement d'une tâche à l'autre, donc ça ne se ressent pas forcément, mais sur le long terme, en termes d'efficacité, on n'est pas aussi efficace. Donc on peut faire deux choses en même temps, mais on peut pas faire deux choses en même temps de manière efficace. En tout cas c'est le propos du bouquin, un des grands propos du bouquin. Et depuis que j'ai lu ce livre et que je mets en application, effectivement, moi je mets une musique en fond en fait, c'est comme dans un état hypnotique. Je suis comme dans un état hypnotique. Il n'y a pas de parole. Et je suis vraiment, voilà, plongé à fond dans le travail, surtout dans le travail d'écriture. Et en fait, c'est une musique qui dure 5 minutes, mais que j'écoute en boucle pendant 1 heure parce qu'en fait, je l'écoute. Enfin, c'est pas que je l'écoute pas, mais elle est là, elle est en fond. Et puis voilà, c'est
en fait, et à partir du moment où ça fait partie des choses connues de ton cerveau, ça arrive à se mettre dans un coin de ton cerveau, effectivement, et tout en rendant agréable cette sonorité, elle n'est pas distrayante pour toi, en fait.
Ça. Et ça dépend aussi des besoins. Par exemple, quand j'ai besoin d'être créatif, là, moi, j'ai besoin d'aller à la terrasse d'une taverne, par exemple, où il y a du bruit ambiant, parce que ce bruit ambiant m'aide à être créatif. Mais effectivement, quand je dois être concentré, c'est plus une musique. Donc, tu vois, parfois, je mets même mes écouteurs, il n'y a rien qui passe. C'est juste pour dire d'avoir le truc et aussi que les autres comprennent. Enfin, là, je suis pas en coworking. Je suis à mon bureau, mais au coworking, ça aide pas mal le casque.
Quand on est en milieu coworking, parce que toi et moi, on a travaillé pas mal en coworking. Hein. Moi, j'ai découvert le coworking en 2012 dans un petit village qui s'appelle Pomerol en France. Tu vois, c'était le premier coworking en milieu rural de France. Tu vois, donc j'étais dans ce petit coworking et c'est super sympathique. Mais effectivement, quand les gens mettent le casque sur la tête dans un coworking, c'est ne pas déranger, en fait.
C'est ça, exactement.
Voilà, c'est comme si on mettait un écriteau. Voilà, c'est la façon polie de dire je travaille, laissez-moi. Voilà.
Mmh, ouais, tout à fait.
C'est vrai que j'ai trouvé ça très sympathique d'ailleurs. Donc le coworking, effectivement, pour le moment, c'est ce que j'allais un petit peu rebondir là-dessus, dans la mesure où, effectivement, télétravail rime avec coworking, hein, bien entendu. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est un peu plus difficile parce qu'on ne peut plus se réunir comme avant. Mais ça reste la belle solution de télétravail, hein, on va le dire, hein, David, pour télétravailler, c'est le coworking. Parce que quand même si on aime travailler seul, même si le télétravail, c'est bien, on va dire que le coworking, c'est mieux aussi. Pourquoi ? Parce que...
Moi, je préfère aussi, mais bon...
Voilà. On a quand même ce lien social, parce que même si on quitte l'entreprise pour travailler chez soi, pour mieux travailler, etc., être en coworking, ce n'est pas être dans l'entreprise. C'est être dans un milieu social, un milieu où on va avoir quand même des échanges avec d'autres êtres humains, parce que bon, l'être humain a besoin de communiquer. Moi, je me sens hyper bien quand je suis dans un coworking. Voilà, et malheureusement, on ne peut pas le faire pour le moment, mais pour les gens qui vont par la suite, une fois qu'on s'est sorti de cette pandémie, hein, j'espère très vite, continuer à télétravailler, mais ne télétravaillez pas tout le temps chez vous.
Coworking.
Abandonnez peut-être l'entreprise ou une partie de l'entreprise au profit du télétravail, mais vous verrez vite, et certains le ressentent déjà aujourd'hui, c'est que malheureusement, le télétravail, on se sent un petit peu seul, quoi. Voilà.
Ouais, tout à fait.
Et donc, le coworking est une des solutions où on peut se retrouver dans un milieu social sans nécessairement être avec des collègues, mais plutôt avec d'autres personnes qui partagent d'autres centres d'intérêt, d'où justement aussi l'intérêt du coworking, hein, c'est d'échanger avec d'autres personnes que celles que vos collègues que vous voyez tous les jours dans votre entreprise, et justement peut-être évoluer vers d'autres voies. Voilà, moi j'ai appris plein de choses en coworking que je ne connaissais pas avec des gens qui faisaient d'autres métiers que celui que je ne pratique. Dernier point, je voulais...
Juste pour rebondir, j'ai Lydia, une personne avec qui je co-work, qui dit « Ah, c'est ça les écouteurs !» Effectivement, ouais, c'est ça. C'était un message caché. Maintenant, il est clair.
Voilà, c'était ça, oui. Mais tu vois, on peut parler même avec les écouteurs, quand même.
Oui, tout à fait. Et j'entends, en fait, j'entends ce qui se passe, mais moi, voilà, ça me permet d'être beaucoup plus concentré. Et c'est aussi, à mon avis, aussi on va dire, un effet Pavlov, tu vois, genre, je mets mes écouteurs et ça me motive moi-même à travailler, là, et à être efficace.
On a mais, tout le travail de petit... type, enfin, des petits tics aussi, voilà, qu'on utilise, ouais, comme tu vois, le thé, hein, qu'on se sert à volonté toute la matinée pour bouger Voilà, pour se bouger de sa chaise et se lever, parce que sinon, on ne se lève pas.
Yes. Et donc, tu disais, donc, au tout départ, tu avais encore un point à partager, c'est ça?
Oui, voilà, mon point que je voulais partager aussi, c'est ce fameux... alors, on a tous lu, enfin, on n'a pas tous lu, mais tu as lu certainement le Miracle Morning hein, aussi, comme moi. Mais ce Miracle Morning, alors, c'est un livre qu'il faut prendre aussi avec beaucoup de recul, hein, comme celui des 4 heures, où il vous explique ce qu'il faut faire le matin pour quelque part réussir votre journée déjà, mais aussi peut-être réussir votre vie. C'est un monsieur donc qui a eu un grave accident de voiture et pour s'en sortir a mis une méthode en place qui s'appelle le Miracle Morning et donc il en a écrit il a écrit ce livre que beaucoup de gens ont lu et utilisent. Voilà, alors de nouveau hein, comme tous les bouquins j'en ai pris effectivement une petite partie et même très infime. Et la première chose, mais ça, j'ai pas eu besoin de lire Miracle Morning et pour mettre en place cette méthode, c'est que je m'offre un grand plaisir dans la journée. Alors ça, c'est un grand plaisir et il y en a que je vais faire souffrir là, je crois, qui vont nous écouter, qui vont me dire ah non mais moi jamais de la vie je ferai ça quoi. C'est que je me lève super tôt. Alors quand je dis super tôt, c'est pas voilà, hein, c'est pas super tôt. Hein, vous savez, super tôt, ça peut être 7 heures. Hein, mais bon, moi je me lève souvent. Allez, ça peut être 5 heures, 5 heures et demie, 6 heures. Et ça, c'est mon miracle. C'est vraiment ouais. Parce qu'on s'imagine pas tout ce qu'on peut faire. Allez, on va dire même 6 heures, entre 6 heures et 8 heures.
C'est je suis d'accord.
Ce que je déteste, David, si je peux t'interrompre avant que tu réagisses, ce que je déteste, c'est de me lever brusquement et d'être obligé d'aller travailler. Et d'avoir ces... Tu sais, ce qui arrive à... pas mal de gens des fois hein, c'est qui sont fatigués hein, je conçois qu'on peut être fatigué etc, mais c'est que tu te lèves du lit, tu sais, je fais assez, moi ça m'est arrivé peu de fois mais je me rappelle de cette contrainte et de ce mal que j'ai eu de me lever et de me retrouver au boulot on va dire 10 minutes un quart d'heure après, tu vois, qu'est-ce que tu te sens mal. Tu te sens mal, tellement mal qu'au boulot, tu es obligé de prendre 3-4 cafés et puis travailler dans de très mauvaises conditions. Ne faites pas ça. Ça, c'est vraiment, si je pouvais te dire quelque chose et faire passer un message, arrêtez ce truc. Moi, j'ai encore un fils hein, qui fait ça. Hein. Je veux dire, il part travailler, lui, 5 minutes avant, il est encore dans son lit, quoi. Et je me bats avec lui pour lui dire, mais ne fais pas ça.
Mais en plus, ça permet d'être, enfin, de pas avoir les distractions habituelles, donc c'est-à-dire d'avoir la, si par exemple il y a de la famille à la maison, ben forcément, si on se lève en même temps que tout le monde, ben il y a les distractions de la famille. Et même une heure, hein, ça peut suffire. Enfin, si vous faites une heure tous les jours, vous avancez une heure tous les jours sur un travail, un projet qui est important pour vous, ben forcément, à la fin de l'année, 365 heures, il y a moyen de produire pas mal de choses. Hein, donc effectivement.
Voilà, je te laisse continuer.
Non, je disais, moi simplement, ce que je fais, c'est que donc je ne fais pas le Miracle Morning dans le sens me lever tôt. Par contre, je fais le Miracle Morning dans le sens où, avant de faire quoi que ce soit d'autre, donc c'est-à-dire me connecter sur mon téléphone, regarder les emails éventuels, etc. Bon, déjà, ça se fait fin de journée. Mais même avant de commencer les éventuelles tâches que j'ai planifiées, je sais... Tous les jours, ben là par exemple pendant le mois de NaNoWriMo, tous les jours c'est une heure et j'écris avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et du coup j'ai pu produire en moins de 10 jours, ben j'ai plus de 10 000 mots, je crois que j'atteins les 15 000 mots, j'ai une structure qui est... dont je suis assez fier, qui est vraiment solide d'après moi pour le livre que je vais écrire. Et tout ça, j'ai produit ça en 10 jours, plus un site internet, une page d'accueil, plus une cover pour LinkedIn, plus ceci, plus cela. Et donc, on voit qu'en 10 jours, 10 heures, parce que je suis pleinement concentré, j'ai pu réaliser énormément de choses. Et si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, en fait. C'est juste qu'on n'est pas efficace quand on est distrait. Pardon.
Et ces matins, en fait, sont miraculeux dans la mesure où, et tout à fait indépendamment du livre, où ils t'apportent de nouveau ce silence et d'être focalisé un petit peu sur toi, en fait, sur ta personne. Je vous explique en deux mots, moi, ce qui se passe dans ces matins. Je pourrais rentrer un petit peu même dans ma vie privée, hein, si vous voulez. C'est toujours intéressant de rentrer dans la vie privée des gens. Les gens adorent ça. Mais c'est que le matin, je me lève tôt. Mon premier réflexe, effectivement, c'est d'aller allumer ma machine à café. Voilà. Et j'allume ma machine à café, je me fais un café, je retourne au lit. Près de mon épouse, et donc on boit notre café tranquillement. Et ce mot tranquille, c'est super important parce que je le vois dans beaucoup de couples, et beaucoup de couples ou pas, ou seuls, hein, enfin tout ce qu'on veut, mais c'est de sortir trop rapidement aussi du lit. C'est-à-dire, on peut être réveillé, voilà, être dans son lit, profiter d'un instant, ne fût-ce qu'un quart d'heure ou 20 minutes, pour se réveiller progressivement. Enfin, on est réveillé, mais on émerge tout doucement. Nous, on a une grande habitude, c'est qu'on ouvre les fenêtres. On ouvre les fenêtres le matin et on respire. On respire, on respire, on discute et puis on se lève. Alors moi, mon miracle morning, c'est le matin. Alors je suis le matin, j'aime faire les tartines de tout le monde. Je ne rigole pas. Mais on a tous ces petits, voilà, ces petites, j'ai oublié le nom.
Ouais, ces petites habitudes, on va dire ça comme ça.
C'est ça que je voulais dire, mais c'est un autre mot, hein, que habitude.
La manie.
Oui, pas de manie, non. Ma vie, elle est, en fait, il faut que ce soit moi ou les autres. Tout à l'heure, tu m'as expliqué, voilà, ta méthode de travail. Tu sais que toi, tu t'étais donné autant de lignes d'écriture, etc., et que ça se passait comme ça. Tu vois, tu te déconnectais de tout, etc. Il faut se donner ces règles de nouveau, tu vois, et planifier sa journée très correctement. Et c'est ça aussi la méthode du télétravail. Si tu ne planifies pas ta journée, tu réussis pas, tu n'y arrives pas. Si t'attends qu'on fasse du boulot, si t'attends que le boulot il vienne tout seul, etc., ça marche jamais. Donc je fais mon petit café, je fais mes petites tartines pour ma fille, ma femme, etc. Et puis après, et ça c'est le truc que tout le monde peut faire, c'est je fais mes jus moi-même. Et ça, franchement, c'est bon, c'est bon. Et surtout, je n'allume pas mon téléphone.
Vous allez allumer le téléphone, c'est le meilleur moyen d'être dérangé, voilà, dès le début de la journée.
Par contre, je peux effectivement regarder, lire un bouquin. Il m'arrive de temps en temps de regarder un TEDx ou un truc comme ça, mais en dehors du fait de me connecter aux réseaux sociaux, etc., voilà, ça je peux le faire. Et surtout, je fais mon yoga et ma gym tous les matins. Voilà, je fais du rameur et voilà. Parce qu'on a aujourd'hui, et on en parle beaucoup avec ma femme, on a des vies aujourd'hui à travers justement les outils digitaux, enfin numériques, etc., une vie trop où on bouge pas trop, en fait, tu vois. Nous, on sort déjà un petit peu là entre l'après-midi, etc., mais déjà le matin ou le soir, essayez d'avoir une activité, quoi. Bougez votre corps, parce que ça, c'est important aussi. Moi, le fait de bouger, moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de bouger mon corps avant d'aller travailler. Sinon, je me sens mal la journée. Donc, je fais mon rameur, je fais mes pompes, mes abdos, etc. Je fais mon petit yoga pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ça, c'est super, en méditation, etc. Ça fait vraiment beaucoup de bien aussi. Et une fois que j'ai fait tout ça, je vous assure qu'à 8h, j'ai la pêche, mais j'ai une pêche d'enfer, quoi. Par contre, à 10h30, je dors.
C'est ça, mais donc il y a cette notion aussi de prendre soin de soi. Donc on a parlé de trois choses principales. Ce qui est assez drôle, c'est qu'avec le titre de ce live, on aurait pu croire qu'on allait partager une liste d'outils, de visioconférences, de mailing, de machin. Et au final, on s'est retrouvé à parler. Et moi, ça me convient parfaitement parce que je suis vraiment à amener plus de bonheur dans la vie des gens. Et je suis convaincu que si on est plus heureux, on sera plus efficace de toute façon. Donc, on a plus parlé, en fait, de comment éviter que la technologie pollue notre télétravail plutôt que de parler de technologie en tant que telle. Et c'est super intéressant.
Si on veut parler de technologie, on peut faire une séance purement technologique.
Oui, bien sûr.
Voilà. Mais Mais ce sera moins agréable parce que la technologie, je pense qu'on en a parlé, parce qu'en disant que il faut ne pas multiplier les outils, les personnes qui nous ont écoutés et qui veulent effectivement avoir une liste d'outils que j'utilise, j'aurais encore bien beaucoup de bonheur à les partager avec eux, hein, ces outils, il n'y a aucun souci, hein, qui n'hésite pas, hein, surtout. Mais effectivement, il n'y en a pas 10, hein, il y a quelques outils qu'il faut utiliser. La plupart des gens les connaissent, mais bon, s'il y en a qui veulent être rassurés par les outils qu'on utilise, toi et moi, David, c'est avec plaisir qu'on les partagera, bien entendu.
Yes, bah d'ailleurs, il y a une boîte à outils qui est disponible, je mettrai dans la description. C'est j'ai fait un Excel, un Google Drive partagé, enfin un Google Spreadsheet pour être exact, partagé avec une liste d'outils en fonction des besoins et que vous avez. Et c'est disponible, d'ailleurs, si tu as envie de partager tes outils, je serais ravi de les ajouter. Mais ce qui est clair, c'est que... Pour donc en revenir sur cet aspect-là, il y a Lydia qui plus soit le fait qu'effectivement le nombre de choses qu'on réalise lorsque l'on se lève plus tôt par rapport à son heure habituelle, c'est comme si tu pouvais réaliser 80% des tâches qui bouffent en autre temps toute la journée. Et ça, tout à fait d'accord. En tout cas, moi, je rejoins cet aspect-là, et c'est clair que se lever une heure plus tôt, c'est pas si compliqué que ça. Et au-delà de ça, même si vous vous levez pas plus tôt, mettez-vous un cadre. Ça, c'est la chose la plus importante, et commencez la journée par la chose essentielle pour votre activité professionnelle, sans aller d'abord sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Si vous avez pour habitude de démarrer la journée en mettant votre smartphone sur on, en regardant les notifications, en regardant les emails, essayez juste une semaine sans ça. Vous allumez votre téléphone uniquement quand vous avez fait votre tâche importante de la journée. Moi, je propose 3 tâches importantes. Ben bon, on va commencer par une et voilà, et avancer là-dessus. Et alors, deuxième point qu'on a vu ensemble, c'est améliorer les conversations et la collaboration, par exemple, en posant un cadre sur les outils à utiliser, la manière dont on peut contacter ou la manière dont il faut éviter qu'on nous contacte. Ça, c'est des choses effectivement qui sont importantes.
Mettez-vous en place des règles, hein, qui sont propres à chacun et
une sorte top. De... Hein, cool.
Et donc, écoute, carrément, j'ai éteint mon téléphone pendant que j'étais avec toi, David.
Yes. Voilà. Eh ben, écoute, c'est un bon exemple pour montrer l'exemple. Tout à fait. Tout à fait. Ben, écoute, justement, je vois que l'heure avance. Ça a été un plaisir de t'accueillir. Voilà. Ben, vous qui nous regardez, si vous vous attendiez à une liste d'outils, ben, soyez rassurés. Vous pouvez contacter Philippe si vous le voulez. Vous pouvez nous écrire en commentaire. Comment?
Philippe ou David. Hein.
Ou David. Ou David, oui, tout à fait. C'est toi l'invité du jour. Donc. Ah, voilà. Moi, de toute façon. Tous les outils sont dans la description. Il y a une boîte à outils, elle est disponible en accès libre. Donc voilà, vous pouvez aller regarder, piocher. Je pense que ce qui est le plus important avant de choisir un outil, c'est de savoir ce qu'on veut en faire de toute manière. Donc voilà, si vous avez besoin de communiquer, ben, vous avez des outils comme Slack, comme Discord ou d'autres. Si vous avez besoin d'avoir une relation avec des clients, il y a des choses. Si vous avez besoin de visioconférence, il y a d'autres outils. Je pense qu'effectivement les outils c'est pas ce qui manque. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut en faire et puis tester et trouver aussi l'outil qui nous correspond, hein, parce que moi il y a des outils qu'on me conseille, quand je me connecte dessus je me dis ah ouais c'est ça, en fait non ça me correspond pas, parce que voilà, on a aussi, il y a des outils qui nous paraissent peut-être plus intuitifs que d'autres alors qu'elles font la même chose, mais voilà, il y a des accroches qu'on peut avoir avec des outils que d'autres n'auront pas. Donc besoin. Et puis ensuite seulement choisir l'outil, tester et avancer. Super. Tu veux rajouter quelque chose, Philippe?
C'est pareil, hein, sur les smartphones aussi. Hein, ne remplissez pas des pages d'outils. Hein, ça aussi, c'est une grande distraction. Hein. Si je vous montre mon smartphone, vous allez être étonné. Hein, je suis vraiment un grand geek et j'ai qu'une seule page d'outils sur mon smartphone. Quoi. Une seule. Donc voilà, ne multipliez pas 3-4 pages d'outils sur votre smartphone que vous allez utiliser une fois peut-être dans votre vie, quoi. Ce sont encore de nouveau des sources de distraction, comme d'habitude.
Yes.
Mais bon, mais écoute... si vous voulez, bon, tu vois, des choses qui sont intéressantes à faire, c'est de faire, tu vois, des copies d'écran des smartphones, tu sais, de montrer un peu aux gens, tiens, comment lui, il utilise son smartphone.
Ah, ça pourrait être sympa, effectivement.
Tu vois. Et des fois, on serait surpris par le nombre d'applications. Tu vois, quand on me voit, on se dirait, waouh, il doit utiliser des trucs complètement fous, etc. Mais moi, quand je dis des fois, j'ai plus aucun Microsoft Word, Excel, etc. Je n'utilise plus que Drive, tu vois, enfin, de Google. Et j'en dis, ah bon? Ben oui, mais c'est participatif, c'est extra. Oui, c'est Google, malheureusement, c'est comme ça. Voilà. Et voilà, et ça me permet d'avancer très, très vite. Hein. Combien de documents je partage avec mes collaborateurs à travers Drive et Spreadsheet, etc., comme tu le disais. C'est un outil, mais absolument fabuleux, quoi. Vraiment
ouais,
fabuleux.
Tout à fait.
Et c'est gratuit, en plus, hein, tu vois.
Ouais, la réalisation de visuels, moi je mets tout dans Canva. En fait, j'utilise beaucoup des outils qui sont dans le cloud parce que t'as tout en ligne et sur ton smartphone, t'as tout ce qu'il faut après.
Oui.
Super, bah, écoute, on fera un autre épisode sur les
outils.
Oui,
quand tu veux, c'est
pourrait...
toujours un très grand plaisir de converser avec toi et si ça peut être utile aux personnes qui nous écoutent, voilà.
Yes.
Mais bon, déjà, on a passé un super moment, toi et moi, et j'espère que voilà, on sera écoutés.
Ouais, tout à fait. Hein, bah, écoute, de toute façon, voilà, si ça peut changer la vie un peu ou beaucoup de quelqu'un, c'est déjà le plus important. Surtout, rester en santé. Je te souhaite plein de belles choses. Et puis, on se retrouvera pour un autre épisode avec grand plaisir. Si tu as envie de dire un dernier mot, c'est le moment, c'est l'instant. Sinon, je fais la clôture habituelle avec le générique juste après.
Bon, prenez soin de vous. Ne vous faites pas bouffer par les outils numériques. Voilà, vivez pleinement votre vie. Chaque jour compte. Profitez-en, même dans cette dure période. Voilà, on peut vivre des beaux moments, quoi. Voilà, avec votre famille, vos proches. Voilà. À bientôt, David.
À bientôt, merci à toi. Et toi qui regardes ce live, eh bien, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie Business Bonheur avec son invité du jour, Philippe Wakeman. Merci encore, Philippe, pour ce bel échange. À très vite. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.